D'habitude, c'est tous les 15 jours et fête oblige, ça nous fait une fois par semaine et moi, je vote pour. Bonjour Rita Zoulay.
Bonjour Didier.
On se retrouve pour une nouvelle, une chanson, une histoire, une nouvelle chronique et en cette veille de Rosh Hashanah.
Non, pas Rosh Hashanah.
Hanouka, et oui, la fête des lumières. Oui, à propos de lumière, je n'en suis donc pas une à moi tout seul. Qui me ramène à ma bar mitzvah. C'est à ce moment-là que qu'on m'a commencé à m'expliquer que c'était Mao Tzur et cette chanson est considérée comme le chant par excellence de Hanouka que tout le monde chante chaque soir de la fête d'ailleurs, directement après l'allumage des bougies. Mais je vous avoue humblement, ma chérie Rita, que mes connaissances de l'hébreu sont tellement nulles que je ne sais absolument pas de quoi parle cette chanson.
Eh ben, vous n'êtes pas le seul, Didier.
Et donc, je compte un peu sur vous pour m'éclairer en cette fête des lumières, justement.
Eh ben, j'ai un scoop pour vous. Même ceux qui parlent parfaitement l'hébreu ne comprennent pas grand-chose.
Ah ben voilà.
Au sens des mots, en tout cas, sauf
un
ceux qui l'ont étudié vraiment. Figurez-vous que ce poème est devenu l'hymne de Hanouka seulement dans les années 50, après la création de l'État d'Israël. Parce que, avant cela, il n'y avait pas de chanson à proprement parler pour cette fête, susceptible de devenir aussi populaire que le Mao Tzur. Ce sont les institutrices des écoles maternelles en Israël qui ont décidé d'enseigner le Mao Tzur aux enfants au moment de l'allumage des bougies de Hanouka à l'école, parce qu'elles n'avaient rien trouvé de mieux. Les enfants se sont mis à chanter aussi à la maison, comme ils le faisaient à l'école, et de sorte que les parents, ainsi que toutes les communautés finalement, séfarades et ashkénazes, ont adopté ce chant, même dans les synagogues. Bien sûr, il y a différentes versions, mais ça c'est la version qui a pris le dessus sur la plupart des autres.
Oui.
Et n'oubliez pas qu'on était en pleine construction de l'État, et que la plupart des enseignantes ne maîtrisaient pas vraiment l'hébreu à la perfection. Elles étaient elles-mêmes olot hadashot, et elles parlaient certainement mieux que les enfants, mais très peu d'entre elles pouvaient se vanter d'être hébraïsantes de langue maternelle.
C'est vrai. On a tendance à l'oublier en même temps, hein. C'est vrai.
Oui. C'était il n'y a pas si longtemps, mais l'hébreu est une langue qui a été ravivée. Donc, elles ont choisi cette chanson pour Hanouka, surtout parce qu'elles ont compris que c'était un appel à reconstruire le temple de Jérusalem et que les mots Hanouka sont dedans. Si elles avaient compris le sens profond de ce poème, elles auraient peut-être préféré ne pas l'enseigner aux petits-enfants. Car à l'époque, les Juifs en Israël mettaient toute leur concentration à vouloir renaître de leurs cendres après la Shoah. Et on ne pensait qu'à une seule chose, construire un pays qui servirait de refuge pour les Juifs du monde entier, redevenir une nation. Mais on ne voulait surtout pas se fâcher avec le monde chrétien, dont une partie nous haïssait encore, et l'autre tentait de se racheter après la Shoah.
Ah mais pardon de vous interrompre, mais il y a un truc qui m'interpelle quand même. Vous m'expliquez, ou vous nous expliquez que Mao Tzur est devenu l'hymne de Hanouka, et puis vous me dites ensuite que les institutrices israéliennes enseignaient ce chant aux enfants sans comprendre d'abord sa signification profonde, pour ne pas se fâcher avec les chrétiens. Alors, s'ils ne comprennent pas le sens de la signification, alors comment savent-elles qu'il faut éviter de se fâcher avec le monde
chrétien,
etc.
Non, elles ont sûrement compris.
Où est le rapport ?
Ben oui, voilà. On se demande bien où est le rapport avec le fait de se fâcher avec les chrétiens, en fait. C'est surtout ça. Mais je pense que c'est ça qu'elles ont, entre guillemets, loupé. Mais elles ont compris qu'il y avait un sens qui quand même concernait Hanouka. Et et la reconstruction, l'appel à la reconstruction du troisième temple, et aussi on parle plus tard de l'exil de Yevanim à Tipsoalai, en tout cas que les Grecs nous ont fait mal. Mais en fait, elle comprenait pas vraiment les mots profonds qui étaient une sorte. C'était en fait ce Maostour, c'est un chant en gros qui appelle à la vengeance contre les chrétiens.
D'accord.
C'est ça qui est fort là-dedans et qui échappe en fait un petit peu aux gens qui écoutent ça comme ça ou qui comprennent l'hébreu moderne.
C'est vrai que quand on écoute cette chanson, on n'a pas l'impression que c'est quelque chose de vengeur, que c'est quelque chose d'agressif ou voire de violent.
Non, c'est parce que la musique en fait est différente. Voilà. Mmh. Mais c'est un appel à la vengeance qui prend en fait tout son sens lorsqu'on sait que ce poème fut rédigé en Allemagne au XIIIe siècle, en pleine période des croisades.
Évidemment.
Ben, cela faisait plusieurs dizaines d'années que les Juifs étaient massacrés, persécutés et accusés de tous les maux de la terre. Je dis dizaines, plutôt centaines.
Finalement, rien ne change, hein.
Malheureusement.
Voilà.
Le traumatisme causé par les massacres des 11e et 12e siècles provoque chez les Juifs la prise de conscience d'être une nation en exil. Et ils aspirent alors à leur pays d'origine, la terre d'Israël. En fait, nous avons l'habitude de chanter seulement la première strophe, alors que le Maostour contient 6.
D'accord.
C'est justement la 6e et dernière strophe qui est intéressante, et figurez-vous, Didier, elle aurait été censurée. Sans doute par crainte de représailles chrétiennes, vu qu'elle appelle à une vengeance et un soulèvement contre l'ennemi du peuple juif, c'est-à-dire les chrétiens à l'époque.
Bah, ça change la donne, évidemment.
Eh oui.
Par les temps qui courent, il y en a certains qui ne gardent que les strophes agressives et d'appel à la violence.
Je ne pense pas, mais
je
ça
parle
devient...
pas de chez nous.
Ah oui, ailleurs, oui. Voilà. Dans d'autres. Bon, on va pas parler d'autres religions
absolument.
Maintenant. On
Bref.
Raconte Maostour.
Ça, c'est fait. Voilà.
Donc, cette 6e strophe avait disparu pendant 5 siècles. Mm-hmm. Puis, elle a étrangement réapparu au début du 18e à Amsterdam, ayant été transmise par tradition orale. C'est quand même incroyable. Maostour retrace les pires calamités subies par le peuple juif, depuis l'esclavage en Égypte et jusqu'aux croisades au Moyen-Âge. Ce chant est truffé d'expressions insolites, essentiellement contre les chrétiens, puisqu'il est composé pendant la période des croisades, forcément. L'auteur reste inconnu, cependant. Mais la première lettre de chacune des 5 premières strophes forme un acrostiche d'un prénom, Mordechai, donc on suppose qu'il s'agit de celui du poète. Et quant à la mélodie, vous dites, on dirait pas parce que c'est un chant, mais en fait, cette mélodie fut collée sur ce texte 2 siècles plus tard. Et c'est assez ironique, Didier, car ce poème, il est chanté sur l'air d'une marche allemande, composée par un chœur protestant au XVIe siècle.
Oui, mais enfin là, on peut faire un rapprochement, puisque dans cette en ce temps-là, si je ne me trompe pas, les protestants et les juifs avaient en commun le fait d'être traqués par les catholiques. Et en cette veille de Hanouka, ce sont surtout les paroles du Maostour qui nous intéressent. Pouvez-vous nous en dire plus sur leur signification profonde, comme vous avez l'habitude de le faire ?
Celle-ci est vraiment difficile, je vous avoue. C'est pas juste une traduction. Il fallait faire beaucoup de recherches. En fait, j'ai dû faire un décryptage, parce que même il y a une traduction de l'hébreu vers l'hébreu.
C'est pas mal.
Il faut pas oublier que l'auteur de Maostour écrit ce poème en hébreu, alors que l'hébreu n'était plus une langue parlée depuis le 2e siècle de l'ère chrétienne. Donc depuis la destruction du second temple par les Romains. La Bible et les prières se lisaient toujours en hébreu, mais l'apprentissage se faisait en yiddish. Vous pouvez donc imaginer quelqu'un qui s'aventure à rédiger un poème en hébreu alors qu'il ne connaissait cette langue qu'à travers les prières et la Torah, écrite des siècles avant sa naissance. Ce qui fait que le choix des mots dans ce chant peut paraître insolite, bizarre, aux yeux des hébraïsants modernes. Chaque mot semble tiré d'un texte biblique ou d'une prière, et tous ces mots mis ensemble forment des phrases énigmatiques. D'autant plus que l'auteur s'exprime volontairement en langage codé, en quelque sorte, pour ne pas être compris par tout un chacun et risquer sa vie ou celle de ses proches. c'est en examinant les sources dont se serait inspiré le poète qu'un décryptage a été possible pour chaque phrase.
Ah bah alors, vous savez quoi, hein ? Moi, je propose que vous nous présentiez une explication abrégée, parce qu'on n'a pas vraiment le temps, une sorte de résumé, quoi. Et puis, je me permets de dire à nos auditeurs quand même qu'ils peuvent toujours vous contacter par email, Irit, s'ils souhaitent obtenir la traduction complète. On mettra bien sûr vos coordonnées, comme chaque fois,
avec plaisir.
Sur le podcast.
C'est vrai, il faut aller vite, donc je vais résumer. C'est une bonne idée. Je vais d'abord citer juste les titres des cinq dernières strophes, de quoi ça parle. Elles décrivent, par ordre chronologique, les exils du peuple hébreu. Mmh. D'abord, la deuxième strophe parle de l'exode et l'esclavage en Égypte.
Alors, à ce moment-là, on pourrait la chanter à Pessah aussi.
Voilà, exact. Mais on ne le fait pas. C'est pour ça que j'ai dit que ce n'est pas une chanson à proprement parler pour Hanouka. La troisième strophe va parler de l'exil à Babylone. La quatrième strophe parlera de l'exil en Perse. Et là, que diriez-vous ? On peut la chanter à...
Ah.
Pourim.
Bah oui, of course.
La cinquième parle de la domination grecque. Et là, étonnamment, c'est Hanouka, mais étonnamment, c'est pas celle-là qu'on chante, c'est pas cette strophe-là qui est là, l'hymne, c'est la première qui est devenue l'hymne de Hanouka. Et la dernière, celle qui a été censurée, parle de l'exil de Rome. Et donc, on va revenir à la toute première strophe d'abord, celle qu'on chante essentiellement à Hanouka. On s'adresse là à l'Éternel, notre rocher. Tzur, Maoz Tzur, Yeshuati, lui demandant de reconstruire une maison de prière, Tikon Beit Tefilati, c'est-à-dire le troisième temple, afin de le remercier comme il se doit, en lui faisant l'offrande de gratitude sur l'autel du temple, Vesham Toda Nezabeach. Et puis, les dernières lignes disent ceci, je vous donne directement la traduction décryptée. Lorsque tu en hébreu ça donne le et tachin matbeach mitevach mitzar hamenabeach, personne ne comprend, c'est celui qui novear comme kelev shenovear azegmor beshir mizmor chanukat hamizbeach. Donc les lignes disent, lorsque tu massacreras nos ennemis qui aboient sur nous comme des chiens féroces, nous pourrons enfin chanter le psaume complet du Hallel et nous allons enfin de nouveau inaugurer l'autel.
Ça rime en plus.
Donc, dans ces dernières lignes, le poète exprime l'espoir de chanter le psaume de Hallel, louange, dans son intégralité. C'est un très long chant, car ce chant aurait été interrompu lorsque les Romains ont défoncé les portes du temple pour assassiner des fidèles juifs au Beit Mikdash.
Bien.
Pendant leur prière.
Ben, j'imagine.
Et pour revenir à la deuxième ligne, quand on dit le Chanael le Shabeach, ça fait référence à la pratique des martyrs juifs, comme le Shema Israël plus tard. Pendant les persécutions du XIIe siècle, il paraît qu'au moment de leur exécution, ils récitaient le Aleinu le Shabeach, la Adon Hakol, la Tête Gdola, le Yotzer Bereshit, etc.
Bien. Ça, c'était le résumé de la première strophe. Et donc, moi, je suis très impatient de connaître la signification de la sixième et dernière strophe qui, je le rappelle à nos auditeurs, vous lui avez dit en début de cette chronique, elle aurait été censurée pendant 5 siècles.
Oui, donc il fallait vraiment voir. C'est par tradition orale qu'elle a réapparu. Et ben donc, on va essayer d'aller à l'essentiel, à la sixième et dernière strophe. La première phrase forme l'acrostiche du mot « chazak », qui veut dire « puissant, force ». Et ça, elle commence par « chasof zroa kotchecha ». Donc, « chetzin et chasof zroa kotchecha », ça fait l'acrostiche de « chazak », ça veut dire « nous serons forts ».« Vekarev ketsa yeshua ». Yeshua signifie, pour ceux qui connaissent, délivrance, rédemption, mais aussi, c'est le prénom hébraïque de Jésus, Yeshua. Il y a donc deux lectures possibles. Vekarev ketz ha-Yeshua, soit fait venir la fin, la délivrance, soit fait venir la fin de Jésus, c'est-à-dire sous-entendu la fin de la chrétienté. Je saute les lignes où il demande à Dieu de venger notre sang, il y a encore des termes insolites là-dedans, et je vais citer les deux dernières lignes qui disent « Deche admon betzel tzalmon hakem lanu ro'im shiv'a ». La première ligne dit « Rejette le roux dans l'ombre des ténèbres ». Qui est ce fameux roux ? Certains pensent que le terme « Admon », signifiant « roux », fait référence au royaume de Edom. Edom, Adam, rouge. Car dans la tradition juive, le roux fait référence à Ésaü. Il paraît que Ésaü était roux, fils de Isaac et de Rebecca, le frère jumeau de Jacob, n'est-ce pas ?
Et qui l'a tué.
Oui, non, ils se sont pas séparés avec Caïn. Non, là, vous confondez avec Caïn.
Exact. Le droit d'aînesse.
Non. Ça, voilà, le droit d'aînesse. En fait, Jacob a, entre guillemets, volé le droit d'aînesse à Ésaü. Ésaü lui en a voulu à mort. Et, il en a fait son ennemi juré. Ésaü, donc, quand il est devenu l'ennemi juré du peuple d'Israël, puisque Jacob est devenu Israël, c'était son deuxième nom, après avoir battu l'ange, on l'a rebaptisé, entre guillemets, c'est le cas d'utiliser ce mot, en Israël. Jacob est devenu Israël. Et donc, Ésaü serait l'ancêtre fondateur du royaume de Édom, dit-on, situé entre la mer Morte et la mer Rouge. L'empire de Édom est allégoriquement identifié dans la tradition juive avec l'empire romain et puis avec la chrétienté.
Forcément.
Par ailleurs, Edmond évoque aussi l'empereur romain germanique Roux, Friedrich Barberousse. Vu que ce chant fut écrit quand même au XIIIe siècle, peu après son règne.
Absolument.
Et à la fin, ils disent « Hakem lanon ro'im shiv'a ». Qu'est-ce que ça veut dire, cette dernière phrase ? On demande à Dieu le retour des sept bergers, Rohim Shiva. Mais on peut aussi le comprendre autrement. On demande le retour du berger des sept. Soit les sept bergers, soit le berger des sept. Cette formule nous renvoie vers deux prophètes qui évoquent la fin des temps, l'Apocalypse. Ketz Hayamim. Il en parle, il utilise beaucoup dans ce chant aussi le mot Ketz. Ketz Hayamim, Ketz. D'une part, le prophète Micha, qui promet au peuple d'Israël qu'en cas d'invasion du roi d'Assyrie, Dieu suscitera, ou plutôt ressuscitera, sept bergers pour sauver son peuple. Et d'autre part, le prophète Isaïe, qui prêche la paix universelle, en disant que le loup résidera avec l'agneau, le léopard s'allongera avec le chevreau, le veau, le lionceau et le bélier demeureront ensemble, et un petit enfant va les guider. Donc ça, ici, on nomme sept animaux qui sont menés par un petit enfant, ce qui serait leur berger en quelque sorte, et là il pourrait s'agir de David, qui était un jeune berger devenu roi d'Israël. Voilà. Ces prophéties évoquent aussi la résurrection des morts. Il s'agit d'un processus passionnant de réunification familiale. À la fin des temps, chaque famille de ceux qui sont en vie au moment de la résurrection s'unira avec tous ses ancêtres en une seule famille. Mais comment vont-ils se retrouver ? Qui les dirigera chacun vers leur foyer et leur famille ? Le Midrash répond que les sept bergers et les huit princes de Adam vont assister dans ce processus. Ils seront en quelque sorte les bergers. Mmh. En gros, il s'agit de nos ancêtres qui étaient les héros spirituels du peuple d'Israël, mais je ne vais pas les citer maintenant. Mais quand même, pourquoi évoque-t-on sept bergers et huit princes?
Ah, ça y est, on va y arriver à ce fameux chandelier qui comportait sept branches à l'origine et qui pour Hanouka va en comporter huit après la victoire des Maccabim sur les Romains.
Eh oui, bien vu Didier, sauf que bon, j'ai failli vous raconter la symbolique des chiffres 7 et 8. Mais notre temps étant compté, je sais que ce sujet va être sûrement élaboré par Nechama et Nora Banim. Je dirais juste une phrase qui résume. Le chiffre 7 incarne le monde physique, alors que le chiffre 8 incarne la transcendance divine, comme Rit Mila au huitième jour, etc. Mais je vais m'arrêter là.
Je vais pas dire que c'est une bonne idée, parce que je vous écouterai pendant des heures, mais effectivement, le temps est compté. Merci beaucoup, Irit.
Avec plaisir, Raksamer.
De nous avoir raconté l'histoire de Mao Tsur. On écoute une version qui date de 1962.
Voilà,
un peu moins musicale, un peu plus incantatoire, je dirais.
Voilà.
Je dirais une prière.
Des chœurs.
Merci, à très vite.
Raksamer.